Chers auditeurs, alors nous sommes vendredi le 16 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors permettez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, de vous rappeler toujours en la mort de M. Farshad Mohammadi, cet itinérant sans famille au Canada, abattu pour la première fois le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure par des agents de la SPVM. Alors on parle du service de la police de la ville de Montréal, et comme cette mort n'était pas assez, donc il vient d'être abattu une seconde fois, imaginez-vous, il y a quelques semaines par un procureur de la Couronne qui a décidé de ne pas porter d'accusation contre les policiers ou l'un des deux policiers qui a fait feu sur la personne. Alors, je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, qu'il s'agit bien de la mort d'un homme et que nous devrons vous rappeler que les heures qui ont suivi la première mort de M. Farshad, il y a eu un rapatage, je dis bien un rapatage médiatique au-delà de toute imagination. Et justement, cette tournade médiatique, si vous voulez, ne visait pas l'homme en question et encore moins les raisons et les circonstances dans lesquelles cet homme est mort, abattu par les feux des agents du service de la police de la ville de Montréal. Le rabattage, comme tel, le rabattage médiatique, ne vise pas un certain regret de cette mort inutile, souvent injuste quand elle tombe sur un homme vulnérable comme Farshad, un itinérant forcé de se retrouvé en itinérance par une société qu'il a négligée à la longueur de la route. Il n'est pas le seul, mais il demeure par ce titre qui porte « Réfugié sans famille au Canada ». Après deux enquêtes bidons, je dis bien après même deux années d'enquête bidons, son dossier vient d'être classé dans les archives avec une mention « Aucune suite ». Voilà donc le statut des plus diminués de notre société. Voilà l'exemple d'un homme qui s'est accroché péniblement, je dis bien péniblement à la vie, qui a lutté d'ailleurs pour retrouver une vie de rêve dans une société de rêve. Alors maintenant, les heures, j'ai dit bien les heures qui ont suivi la mort de M. Farshad Mohammadi le 6 janvier 2012, tous les médias, je dis bien tous les médias, sans exception, se sont pressés de se retrouver autour de la scène du crime. Mais l'attention était planifiée autrement, l'attention était mécanique, sans conscience aucune, l'attention était téléguidée afin de détourner le regard qui se braquait volontairement pour comprendre qu'est-ce qui était arrivé pour qu'un itinérant dormant sur un banc d'acier dans une station du métro vienne d'être tué. Alors, mais vous savez que le public n'a pas, malheureusement, n'a pas ce droit d'accès pour comprendre qui était réellement fautif et qui mérite le châtiment de l'infraction. Est-ce les policiers, je dis bien, est-ce les policiers qui ont abusé de leur pouvoir au point de pousser un peu trop leur pouvoir, revenir en arrière, ou bien qu'est-ce qui est arrivé justement au moment de la mort de M. Farshad, cet itinérant qui n'avait aucune mauvaise intention, ou bien qui n'avait aucun plan déjà préparé d'avance. Nous parlons de cette mort aussi longtemps qu'il faut, chères auditrices, chers auditeurs, jusqu'à ce que la justice québécoise révèle au grand public comment cet homme est mort et dans quelles circonstances il est mort. Bref, les heures qui ont suivi la mort de cet homme, tout était fait pour détourner, et je dis bien, trop rapidement le regard des publics, ainsi que nous avons eu tout un procès médiatique sur la vie des itinérants, leurs problèmes, l'urgence de s'en occuper le plus rapidement possible. L'État a montré, comme d'habitude, bien des tels, je dis bien des tels cas, un souci. Elle a montré un souci, un intérêt de mettre en évidence la vérité au bout de la ligne. Mais la réalité, c'est n'importe quoi. En tout ça, je dis bien en tout ça, ce n'était finalement qu'un écran, je dis bien, il s'agit d'un écran de fumée pour que la tournade passe et on passe le balai en signe d'oubli. La mort de cet homme en particulier qui n'a pas de famille au Canada et encore moins de prestige pour venir à son secours dans ce dernier tranché appelé la justice des hommes vient de s'envoler. Dossier classé pour mention que la personne... Peut-être je mentionnerai ici, est-ce que parce que la personne est de troisième classe, un silence, de toute façon, aucun bulletin, aucune phrase, aucun titre, aucune information, simplement, accidentellement, nous avons appris, et d'une manière officielle, que ce dossier est classé point à la ligne. 2 ans d'enquête, et en vérité, il y a probablement une enquête de quelques heures en tout, le temps ici devient une esquive, hein, je dis bien une esquive, pour faire oublier la mort de cet homme. Chers auditeurs, chères auditrices, je le répète, M. Farchad vient, 2 ans après sa première mort, d'être abattu une seconde fois par notre système de justice québécois, sauf que cette fois, son exécution sommaire était dans le silence total, loin de tous les regards, surtout le vôtre, chers auditeurs, chères auditrices. Farchad vient d'être abattu une seconde fois derrière les rideaux de l'hypocrisie. Une décision de ne pas porter d'accusation contre les policiers ou bien le policier impliqué a pu être révélée au grand public, puisqu'elle est d'une grande importance pour nous, le public, qui a suivi malheureusement cette tragédie dès le départ. Et nous avons la légitimité, hein, nous avons tous la légitimité de s'interroger sur ce silence, sur cette manière de glisser une information aussi importante que nombre de personnes attendent. Pourquoi autant de négligence? Pourquoi nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité? Pourquoi nous sommes traités de cette façon dans une société qui affiche des couleurs de justice autrement? Bref, chère auditrice, chers auditeurs, l'homme était abattu dans des circonstances filmées par des caméras de surveillance. Si vous n'avez rien caché, pourquoi vous ne dévoilez pas les dernières images qui ont précédé la mort de cet individu? Alors, chère auditrice, chère auditeur, je vous invite à ne pas oublier la mort de M. Farchad. Cet homme qui a été abattu, je le répète, le 6 janvier 2012 par les agents de la SPVM à la station du métro Bonaventure. Ne pas l'oublier ne ramène aucune justice, ça je le sais. Mais oublier est synonyme, je dis bien synonyme de complicité. Nous avons suffisamment d'injustice au Québec, malgré que les politiciens et les responsables visés tentent, bien que mal, de nous convaincre du contraire. Mes chères auditrices, chers auditeurs, si vous observez, si vous suivez les victimes de l'injustice, vous allez comprendre rapidement que l'injustice fait partie de notre vie de tous les jours au Québec, que l'injustice déforme chaque instant l'image que le Québec est une terre de justice. Dans le cas qui nous préoccupe, la mort de M. Farchad demeure suspecte sur plusieurs points, et en particulier la fusillade. 3 balles en tout. Une première, selon les témoins, a été marquée par un laps de temps et un silence mystérieux, d'ailleurs jamais expliqué jusqu'à nos jours, puis 2 autres balles totalement injustifiées. Et pour le moins, il faut dire, et jusqu'à la preuve du contraire, il s'agit d'un abus de pouvoir trop déplacé. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons continuer à dénoncer le silence des médias et l'impunité policière qui n'a pas l'air de vouloir prendre fin. Voilà, c'était quelques mots concernant la décision de ne pas porter d'accusation contre les policiers qui ont abattu M. Farchad le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure. Maintenant, une autre chose à souligner, ce fameux article de le 810 du Code criminel que nous avons soulevé lors de notre dernière émission. Alors, ceci a fait que certains auditeurs ou auditrices nous ont appelés pour avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, écoutez, j'avais dit que j'étais... Si j'étais innocent, et je le répète, je ne signerais pas le 810 pour la simple raison pourquoi admettre quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai eu une discussion cette semaine avec Maître Mike Boudreau qui a essayé de me convaincre que c'est toujours mieux de signer cet engagement que de prendre le risque d'être reconnu coupable et de ne plus en sortir. Et même son collègue me disait « Il ne faut pas réveiller l'ours quand il dort parce qu'une fois réveillé, vous ne pouvez ni connaître et encore moins contrôler la suite des choses. » Alors son collègue, d'ailleurs, il explique très bien notre système de justice en le comparant à une machine de saucisse. Une fois vous mettez le doigt, vous ne pouvez plus connaître qu'est-ce qui va sortir de l'autre côté. Alors, chère auditrice, chère auditeur, sur ça... Il a tout à fait raison. Et vous savez que le 810 du Code criminel est constitué en réalité, je dis bien en réalité, pour les hommes et rarement pour les femmes. Pourquoi? Parce que si vous appelez le 911 en disant que vous avez peur d'une certaine femme, par exemple, personne ne va prendre votre plainte au sérieux. Par contre, cher auditeur, chère auditrice, si une femme compose à tort, je dis bien ou à raison, le 911... Le traitement sera complètement différent, et ça vous le savez très bien, je n'ai pas besoin d'ailleurs de vous faire tout un dessin pour comprendre. Et je lisais hier les commentaires de Georges Dupuis dans « Coupable d'être un homme », il disait quelque chose d'intéressant à ce sujet, je cite « Une simple crainte ressentie par quelqu'un suffit à mettre en branle la machine judiciaire. Il ajoute, dans la pratique, ce sont les femmes qui éprouvent des craintes qui exploitent cet article du code criminel contre les hommes dans une stratégie de renforcement de leur position devant les cours civiles ou les chambres de la famille pour le biais du système criminel. Autrement dit, le processus judiciaire s'enclenche. Il s'enclenche non pas à partir de ce que l'autre personne, c'est-à-dire l'accusé, aurait pu faire, mais simplement en fonction des craintes de la partie plaignante, que ces craintes soient justifiées ou non. Fin de citation. Alors, le 810 stipule que le défendeur contracte l'engagement avec ou sans caution de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour toute période maximum de 12 mois. Si vous refusez de ne pas signer ce fameux engagement, je dis bien vous risquez d'aller en prison malgré que vous soyez innocent. Mes chers auditeurs, en cas où vous le signez, qu'est-ce que vous risquez ? Selon nos avocats, et je vais tenter de communiquer avec l'un après notre thème musical, vous ne risquez rien, mais je dirais que vous soulevez un précédent qui risque de vous causer des problèmes si vous êtes accusé une seconde fois. De plus, comme le disait assez bien l'auteur du coupable d'être un homme, en entrant dans le jeu de l'article 810 du Code criminel, l'homme affaiblit sa position pour toute négociation ultérieure au tribunal civil. Où cette histoire du 810 ne manquera pas de se ressortir. Et n'oubliez pas, chère auditrice, chère auditeur, le plus important, que l'homme restera fiché dans les ordinateurs de la police et sera considéré comme violent. Si vous signez l'article 810 du code criminel, vous allez payer doublement face à une autre accusation mensongère qui peut suivre à tout moment. Alors voilà, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Nous allons, lors de notre émission, tenter également de rejoindre Mme Châteauneuf du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Vous allez voir, elle nous parlera du risque pour une personne assistée sociale qui vit en union libre avec une autre personne qui travaille. Ils sont nombreux, ceux et celles, qui pensent qu'il est temps que le gouvernement devra égaliser et de ne pas sanctionner des personnes assistées sociales parce qu'ils cohabitent avec une personne qui travaille. Nous allons également tenter de voir d'autres plaintes. J'ai aussi toujours face à moi M. Réal Baudouin, que nous avons déjà entendu son témoignage la dernière fois. Il est revenu aussi pour assister et pour démontrer à quel point les gens vulnérables sont peu considéré dans notre société. Alors je vous invite de rester à l'écoute. Après notre thème musical, ça sera le tour de Maître Mike Boudreau, qui va répondre à nos questions. Alors je vous invite de rester à l'écoute.
Sur les problèmes de société, coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? une vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à l'une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute.
Voilà, donc bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors j'ai avec moi sur la ligne monsieur Maître Mike Junior Boudreau. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Zitouni, ça va bien?
Bonjour, ça va très bien. Merci Maître d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et vous savez, on vous a appelé parce que on a un problème, parce que la dernière émission, moi j'avais dit sur les ondes comme quoi le code le 810, j'ai demandé aux gens de ne pas signer s'ils sont innocents. Alors il y a beaucoup de monde qui sont innocents, et puis leur avocat malheureusement, il les oblige de signer le 810. Vous êtes un avocat, qu'est-ce que vous allez nous dire ce matin?
Ben, ce que je peux tout d'abord dire, c'est que si votre avocat vous oblige à signer un 810, c'est que vous avez tout à fait le droit de ne pas le signer. Mmh. Et c'est toujours votre droit de prendre une décision dans votre dossier et de choisir l'avocat de votre choix et de prendre la décision qui s'impose selon vos valeurs ou selon la volonté de mener votre dossier.
Mmh. Mais Maître, des fois, vous savez, nous, nous sommes conseillés par nos avocats. La plupart des gens, les gens, ils ne savent même pas c'est quoi le 810. On lui dit tout simplement, écoute, vous signez le 810 et vous ne craignez rien, ça ne devra pas avoir de problème. Qu'est-ce que vous avez à répondre?
Mais le 810, tout d'abord, est une disposition dans le code criminel qui permet à une personne qui craint pour sa sécurité de déposer une dénonciation et par la suite, le tribunal pourrait imposer des conditions qui s'imposent relativement à cette dénonciation. Mmh. Dans la plupart des cas, ce qui est fait, c'est que dans un cas, dans un litige ou plus particulièrement dans les dossiers de violence conjugale,
exact.
Où il est question de voies de fait, il est question de harcèlement ou il est question de tout type d'infraction contre la personne, là, il est possible là, que les parties puissent s'entendre sur un retrait des accusations ou la poursuite va tout simplement ne pas avoir déclaré, ne pas avoir de preuves à offrir et donc la personne sera acquittée de l'infraction. Par contre, elle va devoir reconnaître qu'une personne a pu craindre pour sa sécurité ou la sécurité d'un membre de sa famille ou la sécurité de ses biens. Et à ce moment-là, on va lui imposer la condition de ne pas rentrer en communication avec la personne ou la présumée victime dans le dossier pendant une période d'une année. On va également lui donner l'obligation de garder la paix pour une bonne conduite. Le seul inconvénient que ça peut causer dans la plupart du temps, parce que c'est quand même une bonne alternative, parce que la personne se retrouve sans casier judiciaire par rapport à cette infraction.
Tout à fait. Mais Maître...
Par contre...
Oui. Vas-y, continue Maître, excuse-moi.
Mais voilà, mais c'est sûr que ça a un inconvénient dans le sens où, malheureusement, dans le cas où il s'agit de couples ou de personnes toujours mariées, malheureusement, la condition de ne pas rentrer en communication avec la personne, sauf par exemple avec l'autorisation du tribunal avec un jugement de la Cour supérieure, ça pourrait en quelque sorte briser le couple une bonne fois pour toutes. Malheureusement, le système judiciaire fait en sorte que s'il y a un événement où une présumée victime porte plainte, par la suite de retirer sa plainte et malheureusement la seule position qui, ou la seule option qui s'impose par la suite est un 810, ça risque de mettre un terme définitivement au couple là, parce que si la personne qui a les conditions de parenté en communication avec la présumée victime le fait, elle risque de se retrouver devant les tribunaux puis d'avoir une nouvelle accusation.
Mais Maître, vous avez utilisé le mot reconnaître. Ça veut dire que l'accusé devra reconnaître qu'il y a une crainte, certaines craintes.
Voilà. Voilà.
Alors juste par ce fait-là, si l'innocent, si la personne, l'accusé, là, il a rien à se reprocher en définitive là.
Oui.
Moi j'ai de la difficulté à comprendre comment un avocat il va le conseiller et puis il lui dit c'est pour le bien. Hein. Et ce que j'ai appris aussi que même si une fois il va signer le 810, il reste sur l'ordinateur de la police comme quoi il sera toujours considéré comme un non-violent, ça veut dire sera affiché.
Je peux pas vraiment me prononcer sur la question à savoir est-ce que les policiers ont telle ou telle information. Malheureusement, je serais même porté à croire que dans la plupart, il y aura toujours un dossier de police, justement, qui sera ouvert. Par contre, au niveau du tribunal, bon, ben, la charte canadienne est très claire. Là, une fois qu'on est acquitté, bon, on est innocent, puis on ne doit pas être considéré comme un criminel, là, si on est acquitté d'une infraction. Dans la plupart des cas, lorsque signature d'un 810, il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Parfois, il va y avoir un retrait des accusations de la part du ministère public. Donc, du procureur de la poursuite, là, à dire, bon, on décide de ne pas poursuivre la plainte, donc il y a un retrait. Alors, c'est sûr que ça va peut-être continuer d'apparaître dans le dossier de la Cour. Par contre, moi, ce que je peux conseiller à la plupart des gens qui ont obtenu un retrait ou un acquittement, c'est demander à la Cour, au greffe, de purger le primitif, de telle sorte que ce soit plus accessible au public. C'est sûr que les policiers peuvent avoir certaines informations, mais normalement, on peut même demander la destruction, notamment des empreintes digitales ou de toutes sortes d'informations, là, qui est relatif à leur égard, là, s'ils ont été acquittés d'une infraction. Ça, c'est un droit qui est prévu par la charte. Puis, je pense que vos auditeurs doivent être informés de ce fait-là. C'est que si vous avez été acquitté d'une infraction, ben, vous devez être considéré comme une personne, comme un citoyen qui n'a jamais eu d'antécédent judiciaire.
Tout à fait. Maître Boudreau, permettez-moi de vous poser une autre question, mais d'une autre manière. Le fait de connaître, hein, de connaître comme quoi la personne, elle a eu peur ou pas, de connaître.
Oui.
OK. Et signer le 810. Est-ce que ça ne va pas peser si ça se répète, l'action? Ça veut dire, une fois signé 810, après un an, ça se répète. Est-ce qu'il ne va pas tâcher sa crédibilité? Devant un juge, il ne sera pas crédible une deuxième fois, une troisième fois?
La Couronne signe une deuxième infraction après une période d'une année. Okay, mm-hmm. Il n'y aura pas d'accusation criminelle supplémentaire pour avoir brisé la condition du 810, puisque ça va être terminé. Pour ce qui est de la crédibilité, normalement, les parties ne sont pas informées de ça. Et on revient à la case départ, c'est comme si la personne n'avait pas d'antécédent judiciaire. Maintenant, je ne connais pas, je dirais, les politiques des policiers là, pour ce qui est de savoir est-ce que si dans le passé, il y a déjà eu un 810, est-ce qu'on doit intervenir plus... De façon plus acharnée. Pour être tout à fait honnête, je ne croirais pas. Mais rien n'est impossible, là. C'est certain, malheureusement, que je crois qu'il y a une tolérance zéro, je crois, vis-à-vis les personnes qui sont victimes de violences conjugales, notamment les femmes victimes de violences conjugales.
Oui.
Donc, il est possible, malheureusement, qu'après une arrestation, si la personne n'a pas d'endroit où habiter, elle risque de passer une nuit en prison, là. Mmh. Mais généralement, il n'y aura pas de problème d'être libéré sur engagement à la comparution. Par contre, c'est vrai qu'elle risque de passer une nuitée en prison là, juste parce que sa conjointe elle a porté plainte. Là. Et si elle a fait une déclaration en bonne et due forme, que ce soit vrai ou faux, malheureusement, c'est séjour en prison pour une nuitée là, qui s'impose dans la plupart des cas. Là. Je l'ai vu trop souvent dans ma pratique.
Et Maître Boudreau aussi, la question, peut-être, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Cette question-là, c'est que le 810, il est appliqué dans la plupart du temps, la majorité du temps, contre les hommes. Est-ce que c'est exact?
Oui. Alors, ça me semble. Oui, je peux signer un 810, j'en ai fait un pas plus tard que la semaine dernière. Généralement, c'est une bonne façon là, de disposer d'un dossier. Là. Par contre, c'est vrai que si la personne n'est pas en mesure de reconnaître qu'une victime a craint pour sa sécurité, je ne conseillerais jamais un client à faire une telle reconnaissance.
Voilà.
Vraiment, c'est des chances d'acquittement. Si c'est des chances d'acquittement, puis si vous êtes convaincu que vous êtes innocent et que vous avez une version à offrir devant le tribunal ou que vous savez que c'est une pure machination de la part de la victime là, de faire une telle déclaration. Vous avez le droit d'avoir un procès et voilà, si vous n'êtes pas conseillé en ce sens-là, vous avez le droit d'avoir l'avocat de votre choix. Moi, c'est... Voilà.
Mais vous êtes exposé à un risque réel, c'est ça ce que vous êtes en train de le dire aussi.
Et pouvez-vous répéter la question?
Vous êtes exposé à un risque d'être coupable aussi, hein, parce que là, vous savez, pour aller chercher hors tout doute comme quoi la personne n'avait pas à craindre pour sa vie, ça, c'est on sont vraiment dans l'impossible. Hein, non.
Effectivement, mais dans un tel cas, je dirais que c'est pas un critère de hors de tout doute raisonnable, c'est un critère de raisonnabilité.
Mmh.
C'est-à-dire que la personne qui désire signer un engagement 810 n'a qu'à le dire au tribunal, et raisonnablement, si le tribunal il est convaincu, il y aura la signature d'un 810 avec les conditions qui s'imposent. Et le ministère public va faire la déclaration, soit qu'il n'y a pas de preuves dans le dossier, ou soit qu'il y aura un retrait des accusations, purement et simplement.
Maître Boudreau, malgré, c'est peut-être ça ta dernière question, malgré que la crédibilité de la personne, celui qui va signer l'article 810, malgré sa crédibilité peut être un petit peu ébranlée, vous conseillez les gens de signer le 810? Les gens innocents, attention, hein, je précise.
Les gens innocents?
Oui.
Les gens innocents. Des fois, il peut y avoir un contexte où une victime a craint pour sa sécurité, mais qu'elle est innocente. Alors là, effectivement, je pourrais conseiller à la personne de signer un 810 parce que l'objectif ultime, c'est l'acquittement. Maintenant, s'ils ne sont pas en mesure de reconnaître ça, ben, moi, à mon avis, la justice devrait imposer effectivement que la personne soit acquittée et qu'il n'y ait pas la signature de 810.
Voilà, exactement. Alors, maître Mike Junior Boudreau, alors, vous êtes un criminaliste ou
oui,
vous pratiquez quoi?
Absolument, chez Boudreau, tu es même avocat.
Oui.
On est situé au centre-ville et on pratique exclusivement en matière de criminel.
Alors voilà, sur ça, je vous dis un grand merci, maître Boudreau, d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère que les gens, je vais essayer de passer votre numéro de téléphone, les gens qui ont besoin d'un avocat qui est pour nous, on fait énormément confiance, ils peuvent vous rappeler.
Merci beaucoup, monsieur Zitouni, je vous souhaite une excellente journée.
Je te remercie beaucoup, maître Boudreau, au revoir.
Et un salut à tous vos auditeurs.
Merci, hein, au revoir, maître Boudreau.
Au revoir.
Alors voilà, c'était maître Mike Junior Boudreau, donc il est situé au 180 boulevard René-Lévesque, Est, suite 105. Si vous voulez communiquer pour d'autres informations, maître Boudreau, vous pouvez le rappeler au 514-903-9922, 514-903-9922. C'est gentil de sa part, parce qu'on a eu de la difficulté à trouver un avocat pour répondre, parce que quand on dit pourquoi les avocats poussent les accusés de signer le 810, alors les avocats disent on ne parle pas. C'est un peu. Alors sur ça, chers auditrices, chers auditeurs, on va faire juste une pause musicale, on va revenir pour discuter d'un autre sujet, des assistants sociaux. Restez à l'écoute. Voilà, bonjour chère auditrice, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, j'ai avec moi maintenant, dans un autre registre, Madame Châteauneuf, elle est porte-parole du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Bonjour Madame Châteauneuf.
Bonjour.
Madame Châteauneuf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et je vais directement au point ou un autre sujet d'aujourd'hui. Vous savez que la personne qui nous a... Il y a plusieurs personnes, hein, mais parmi eux, il y a une personne en particulier, qui, Madame Gérard, qui a exposé un petit peu ce problème-là qui existe maintenant pour les assistés sociaux. Une personne qui vit, hein, la vie maritime, hein, maritale, qui vit avec une personne qui travaille et que le gouvernement va aller vraiment saisir. Hein, et qu'est-ce que vous avez à nous dire dans ce dossier-là?
Oui, ben c'est un sujet très difficile à vivre pour les personnes assistées sociales parce que les personnes assistées sociales n'ont pas droit à l'amour, à la vie commune.
Voilà.
Comme l'a vécu Mme Gérard. Donc, c'est pour toutes les personnes à cité sociale, même celles qui sont en couple et que les deux personnes sont à l'aide sociale, donc elles vivent une coupure, elles ont sur leur chèque si elles sont en couple. Mmh. Et pour les personnes dont le conjoint travaille, même au salaire minimum et même à temps partiel, elles n'ont pas droit à l'aide sociale. Donc, ça fait en sorte que les personnes à cité sociale ne peuvent pas vivre, en fait, avec leur conjoint ou conjointe, à moins de vraiment devenir dépendant financièrement de la personne. Donc, ça crée des situations vraiment difficiles.
Madame Châteauneuf, parce que la dame, l'exemple qu'on a aujourd'hui, l'exemple de la dame, là, qui est en question aujourd'hui, c'est que son cas est brisé totalement. C'est-à-dire, elle avait cet amoureux, si vous voulez, elle aimait beaucoup, puis lui, de temps en temps, il l'aidait un petit peu. Alors, là, le gouvernement, il rentre au milieu, puis tout éclate et l'union est partie à jamais. Et puis là, il y a même une saisie, là. On va aller saisir des biens, on va saisir de l'argent de son compte, et puis là, on le réclame au-delà de 50 000 $, je ne sais pas combien, là, de l'argent. Hein. Alors que la dame, maintenant, elle demande, est-ce qu'elle a le droit vraiment de demander au gouvernement que pourquoi ne pas légaliser la cohabitation et l'union libre?
Oui, ben c'est ce qu'on demande ici aussi au Front commun des personnes à cité sociale. Oui. C'est-à-dire qu'on demande qu'il y ait un chèque par personne. Donc, toute personne qui est sans emploi, donc qui est exclue du marché du travail, oui, que ce soit pour des raisons de handicap, de maladie ou simplement parce que la personne ne veut l'embaucher, il n'y a pas d'employeur qui accepte de l'embaucher. Donc, on souhaite que toutes ces personnes puissent avoir accès à l'aide sociale, même si elles ont un conjoint. Et bien sûr, comme tous les autres Québécois, Québécoises, si la personne reçoit un chèque et que son conjoint travaille, bien sûr, elles ont à payer de l'impôt comme couple, comme famille. Mmh. Donc, on ne demande pas que les gens aient des exceptions au niveau de l'impôt. On demande seulement que toutes les personnes puissent avoir un revenu minimum pour vivre. Donc, si mon conjoint est au salaire minimum à temps partiel, ben il n'y a pas à me faire vivre si je suis exclue du marché du travail. Par exemple, j'ai un handicap. Ben là, il faut que mon conjoint au salaire minimum me fasse vivre. Ça crée des situations de grave pauvreté.
Mais Mme Châteauneuf, est-ce qu'il y a-t-il d'autres exemples? Parce que je sais que c'est hors le Québec, là, dans d'autres pays comme la Belgique, je sais pas, le système est différent.
C'est sûr que, dépendant des pays, les personnes peuvent avoir accès à un chèque dépendant du revenu de leur conjoint. Ce qui change d'un pays à l'autre, c'est, dans le fond, le calcul des revenus de la famille. Donc, il y a certains pays où par exemple, on va considérer que si le conjoint est au salaire minimum, bien, la personne a droit à l'aide sociale. Donc, ça peut être cette situation-là dans certains pays, alors qu'ici, même si le conjoint est un travailleur pauvre, on va quand même couper l'aide sociale à la personne.
Madame Châteauneuf, est-ce que c'est ça ce qui explique d'une partie aussi que les assistants sociaux restent, ils sont seuls, hein, solitaires, donc ils ont peur d'aller vers quelqu'un d'autre, de risque ou de défaut d'être amputé leur part?
Oui, c'est certain que les personnes ne vont pas vers les autres, s'isolent beaucoup. Oui. Et c'est sûr que les gens ne veulent pas devenir dépendants financièrement d'une autre personne. Il y a beaucoup de personnes handicapées aussi qui ont écrit au gouvernement, qui nous appellent pour dire, ben moi, j'ai un nouveau conjoint. Dans un an, je veux pas que le conjoint paye pour qu'il aille à payer pour mes sous-vêtements puis mes tampons, par exemple. C'est des informations crues, mais c'est ça que les gens sont poussés à faire. Si j'ai un conjoint puis que j'ai plus droit à aucun $ à l'aide sociale, mais je vais devoir demander à mon conjoint. C'est surtout des femmes qui se retrouvent dans cette situation-là pour toutes sortes de raisons. Souvent, c'est les femmes qui sont chefs de famille monoparentales qui sont responsables des enfants et elles sont plus exclues du marché du travail. Et là, elles doivent quémander pour s'acheter des produits hygiéniques, par exemple. Donc, ça crée des situations vraiment difficiles. Les gens ne veulent pas vivre ça, donc c'est pour ça qu'ils s'isolent.
Même, c'est bizarre, hein, parce que la dame en question, elle vous reproche comme quoi vous n'avez pas fait assez pour pousser un petit peu, pour essayer de forcer le gouvernement de revoir un petit peu cette situation-là.
Mais c'est sûr que nous, on va au rythme, dans le fond, de la population, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire en premier, c'est aussi de convaincre, d'informer la population sur ce sujet-là. Il y a eu aussi une contestation judiciaire de cette coupure-là pour vie maritale. Donc ça a été fait par une famille avec un bureau d'avocats et ça n'a pas marché.
Ça n'a pas abouti, hein?
Non, ça n'a pas abouti. Mm-hmm. Donc je sais que Mme Girard souhaitait qu'on retourne devant les tribunaux, mais c'est sûr que, dans le fond, si ce jugement-là n'a pas été porté en appel, là, les délais sont partis, donc il faut recommencer à zéro. Et si dans le fond, on a perdu une première fois, il faut trouver des nouveaux arguments au niveau juridique. Et
Mais Mme Châteauneuf, elle, c'est depuis 4 ans qu'elle est devant la cour. Hein. C'est tellement fatigant et finalement, au bout de la ligne, elle a perdu tout. Là.
Oui, je comprends que, dans le fond, le rythme de la lutte, ça semble pas assez rapide pour Madame, puis je comprends parce qu'elle, elle vit tous les jours. Ouais. Seulement, c'est sûr que si on fait pas connaître notre revendication à la population, qu'on fait pas des séances d'information sur ça pour que les gens comprennent bien le problème puis notre demande, c'est difficile après ça de réussir à convaincre les élus si on n'a pas une partie de la population derrière nous. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a choisi ce plan de match-là, d'aller faire de l'éducation populaire, des cafés-causeries sur ce sujet-là. Donc, il y a aussi un vidéo qui a été produit, des capsules pour la radio communautaire pour informer la population sur ce sujet-là. Il y a un communiqué de presse qui a été fait à la Saint-Valentin pour expliquer la situation, mais je comprends que... Dans le fond, quand on le vit, on voudrait que ça aille vraiment plus vite que ça va maintenant.
Exactement, la lenteur. Et pensez-vous, Mme Châteauneuf, comme dernière question, pensez-vous qu'il y a de la lumière au bout de la ligne, au bout du tunnel, finalement, là? Parce que les gens sont tellement traumatisés par... Ils ont une crainte, hein, il y a une vraie crainte chez les gens, les assistants sociaux. Et puis, ils souhaitent que ça va un petit peu... le gouvernement, à un moment donné, il va se rendre compte qu'ils ont le droit, comme vous l'avez dit au départ, qu'ils ont le droit d'avoir une vie amoureuse, qu'ils ont le droit d'avoir une union libre, une cohabitation.
Mais moi, je pense que les seules luttes qu'on perd, c'est celles qu'on abandonne. Donc, je pense que si on continue à mener la lutte puis qu'on essaie de convaincre aussi le plus de gens possible de la légitimité de notre revendication, bien, c'est sûr que j'ai bon espoir qu'on réussisse à convaincre les élus avec le temps de changer ça, puis que tout le monde puisse avoir accès à un chèque par personne.
C'est très bien. Est-ce que vous avez, pour les gens qui vous écoutent ce matin-là, est-ce que vous avez un message à donner à ces gens-là, au moins l'air de les encourager au moins de tenir la route, quoi?
Oui, ben c'est sûr que moi je dis à tout le monde que si les gens veulent se battre ou continuer à lutter contre cette coupure-là pour vie maritale, c'est possible de nous contacter, d'aller sur notre site web, donc c'est fcpasq.qc.ca pour avoir nos coordonnées, pour s'impliquer. Il y a des comités qui travaillent sur ça. Donc c'est sûr que c'est une longue lutte. C'est comme toutes les luttes sur les droits humains, c'est des longues luttes, mais on lâchera pas.
Un grand merci, Mme Châteauneuf.
Merci à vous.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Alors, c'était Mme Châteauneuf, porte-parole du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, restez toujours à l'écoute. On va faire juste une petite pause musicale. On va aller dans un autre terrain. Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Merci de rester à l'écoute. Alors, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, sur 2.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Madame Sylvie Lafontaine? Allô?
Oui.
Alors, bonjour, madame. Alors, comme promis, là, je vous ai promis de vous céder la parole afin que vous expliquiez ou bien que vous présentez ou vous exposez un petit peu cette injustice que vous, dans laquelle vous sentez...
Je raconte tout en détail.
Non, mais on parle directement. Alors, madame, vous avez, au mois de février, là, je parle 16 avril, vous devrez faire un paiement, c'est ça, pour le permis de conduire, la SAC, c'est ça?
Oui, je devais, mais le 16 avril, j'ai envoyé un mandat poste.
Pour le paiement?
Pour payer mon amende.
OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, madame? Vous allez payer une amende. Pourquoi vous devrez payer une amende?
Ben, parce que j'ai eu une amende de stationnement à Trois-Rivières.
OK.
Tout près de l'hôpital de Trois-Rivières. Puis, c'est ça.
Alors, suite à ça, vous envoyez le mandat pour payer l'infraction?
Oui. Là, je n'avais pas les moyens parce que je m'occupais d'une personne qui avait fait une hémorragie cérébrale et que je n'avais pas les moyens de payer maintenant l'étiquette. Puis, c'est par la suite, là, quand j'ai commencé à avoir des sous qui ont rentré, mais là, à ce moment-là, vers le 16 avril, j'étais allé payer mon amende. J'ai envoyé un mandat poste pour payer mon amende.
C'est important, Mme Lafontaine, que vous avez quand même communiqué avec la Cour pour expliquer comme quoi, voilà, je devrais payer.
Oui, c'est ça. Mais eux, ils m'avaient donné un numéro de série pour que je puisse l'écrire sur le mandat poste.
Alors, eux, ils vous ont donné un numéro de série.
Oui.
Et le problème, c'est que le numéro de série qu'ils vous ont donné était faux.
Il n'était pas
exact.
Le dernier numéro, il n'était pas le bon.
Il n'était pas le bon, voilà. Mais vous avez fait votre part. Mais vous restez, après, on en parle de avril, le mois de mai, le 4 mai, d'un seul coup, paf, vous avez une saisie de votre voiture.
Mais le 4 mai, oui, ben, je l'ai promené, mon ami qui avait fait une hémorragie cérébrale, je l'ai rappelé sa mémoire, parce que sa mémoire elle avait été affectée. Oui. Fait que je l'ai promené un peu partout pour voir si elle se souvenait des lieux et tout ça. Oui. Puis à ce moment-là, je me suis fait arrêter par la police, puis ils ont mis...
Ils ont saisi la voiture.
À ce moment-là, ils ont saisi ma voiture.
OK. Alors pour vous, là, ils ont saisi... jusqu'à présent, la voiture, elle est dans le fourrière, hein?
Oui, okay. Depuis le 4 mai.
Alors vous, ce que j'ai bien compris, vous avez communiqué avec la Cour, vous avez expliqué, écoutez, là, c'est pas ma faute. Ils ont admis que c'était pas ta faute, c'est ça?
Mais ils l'ont pas admis. Mais ils ont vu qu'il y a eu une erreur de numéro de série.
C'est vrai qu'ils ne vont jamais admettre, mais ils vont dire qu'il y avait une erreur de numéro de série.
Oui.
Ce n'est pas... Parce que si vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel numéro. Vous avez automatiquement mis le numéro qu'ils vous ont donné.
Un 5 puis un 6, puis ça sonne pas, ça sonne différemment des deux, là.
Oui.
Puis je ne pouvais pas me tromper de numéro, là. C'était
voilà.
Évident.
Alors, eux, ils ont admis l'erreur, si vous voulez, l'erreur.
Ben oui, parce qu'ils l'ont modifié par la suite. Ils ont trouvé l'erreur, puis ils ont transféré les deux dossiers dans mon dossier.
Ça, c'est à la cour de Château de Trois-Rivières?
Trois-Rivières.
Mais malgré que vous avez expliqué, ils vous ont reconnu l'erreur et tout, et jusqu'à présent, du 4 mai, jusqu'à présent, votre voiture est toujours dans la fourrière?
Toujours.
Et vous n'avez pas réussi à la...
J'ai fait des pieds et des mains pour essayer de... J'ai appelé à l'aide juridique pour qu'on puisse m'aider. On ne pouvait pas m'aider. J'ai appelé au bureau, au barreau du Québec. Eux, ils m'ont transféré à un avocat de Trois-Rivières. L'avocat de Trois-Rivières ne pouvait pas m'aider. Là, tout le monde me conseillait de faire appel à la protection du consommateur. Puis, par hasard, j'ai tombé... On m'a référé à vous.
Oui.
Puis depuis, mais c'est juste avec vous que depuis une semaine et demie... de démarches et de téléphones et d'appels que j'ai réussi à avoir de l'aide, mais seulement par vous.
Oui. Alors, c'est quand même bizarre, hein, parce que vous sentez que vous étiez tout seul, vous êtes pour...
Je me sentais désemparé, je savais pas où aller, à qui m'informer, qui pouvait m'aider dans ces démarches-là.
Et c'est pas juste aider, madame, c'est-à-dire en face du système qui est en place, malheureusement, vous avez toute la difficulté de dire aux gens, écoutez, là, si vous avez... Pourquoi vous m'enlevez ma voiture alors que j'ai besoin au quotidien. Hein?
Oui, exactement.
Vous, pour vous, si vous sentez que c'est pour vous, c'est une injustice pour vous?
Mais absolument, absolument, oui. Parce que même envers le policier qui a voulu saisir ma voiture, j'ai expliqué le cas, qu'il ne pouvait pas m'enlever ma voiture, qu'il y a eu une erreur qui s'est produite,
oui.
Puis je voulais juste qu'il me donne un 24 heures pour régler le problème,
oui.
Puis le policier n'a pas voulu rien entendre. Ça aussi, j'ai trouvé ça déplorable de sa part, de pas être plus humain que ça, puis de me donner seulement qu'un 24 heures pour régler le problème, puis non, il ne voulait rien entendre, il dit non, je vais saisir la voiture, puis la remorque. recueil s'en vient, puis il va venir la chercher.
Alors, vous déplorez la lenteur, vous déplorez le système, vous déplorez parce que vous sentez vulnérable.
Oui, parce que j'avais aucun recours. Oui. Tous les téléphones que j'ai faits m'ont servi à rien, rien. Il aurait fallu que je paye de ma poche un avocat, puis je suis sur l'aide sociale. Donc, je peux pas me permettre de payer un avocat pour m'aider dans ce débat-là.
Et jusqu'à présent, il n'y a pas de promesse pour reprendre votre voiture jusqu'à présent?
À date, j'ai rien. Oui. Tout.
Quel est le sentiment que vous avez, madame?
Ben, sentiment que il n'y a pas de justice pour les petits.
Voilà.
Là, je fais affaire avec des grosses machines, la SAAC, l'éco municipal. Donc, moi, je me sens petite à comparer à eux autres. Là.
Et vous, cette voiture-là, vous avez besoin quotidiennement de votre voiture? Là. C'est à peu près, c'est avec ça que vous déplacez?
Oui, absolument.
Alors, voilà, donc c'était madame. Merci, madame Sylvie Lafontaine.
Je vous remercie beaucoup.
Merci, bonjour. Alors, voilà, donc, chers auditeurs, c'était vraiment une madame Sylvie Lafontaine de Laval. Elle nous a vraiment elle a communiqué avec nous il y a deux jours. Et puis, elle essaie d'avoir de l'aide, hein, parce que depuis le 4 mai, sa voiture, elle est en fourrière. Donc, elle n'a pas eu à avoir accès à sa voiture, malgré que ce n'est pas son erreur, elle. Alors, maintenant, je vais revenir avec. J'ai devant moi, maintenant, en face de moi, Réal Baudouin.
Oui, Réal Baudouin.
Vous avez tout son
Bouin, oui.
OK. Juste vous dire, chère auditrice, chère auditeur, Réal Baudouin, on l'a déjà eu ici sur le plateau il y a deux semaines. Et puis, il nous a expliqué un petit peu son cas, parce que le problème, c'est suite à un accident. Hein. Il a eu un accident de voiture. Mais avant, il vivait bien. Il vivait même, il disait, qualifiait ça comme un roi. Il vivait très bien. Il avait des travailleurs qui travaillent pour lui. Et puis, à un moment donné, il vient d'avoir cet accident-là qui a, malheureusement, il est rendu presque handicapé. Hein. Donc, toute la face.
La moitié.
De la face, de votre visage, oui. La mâchoire.
Pas paralysé,
ouais.
Semi-paralysé.
Et c'est ça qui fait que...
Une dent en gueule, dans mon accident, les dents ont volé.
OK, voilà. Alors,
celui-là, il est amusé à parler.
Alors. Mais le problème, que les gens, quand ils vous voient, surtout, vous allez, parce que vous nous parlez aujourd'hui des policiers, hein. Vous dites que les policiers, quand chaque fois qu'ils vous voient, ils pensent que vous êtes un ivrogne.
Oui.
Et ils vous arrêtent.
Oui.
OK.
Oui. Ils ne disent pas pourquoi.
Sans justification aucune.
Non, ils ne disent pas.
Mais M. Réal Baudouin, pourquoi vous avez déjà expliqué, vous êtes retourné aujourd'hui pour nous dire quoi, réellement?
Harcèlement. Voyons. Moi, j'étais mort vivant là. Mm-hmm. Et pour moi, ça avait... une tirée de balle, la rage, ils ont la rage.
Pourquoi ils ont la rage contre vous, monsieur?
Parce qu'ils ont découvert au garde-manger, ils mangent à l'eau.
Alors, juste parce que monsieur Réal Baudouin, comme je l'avais déjà dit avant...
Il mangeait des pauvres ailleurs sur le bien-être social.
Alors, il y a un lieu où les gens vont aller manger gratuitement, hein, pour aider les gens les plus diminués. Monsieur Réal Baudouin, il rentre dans ce lieu-là et puis il trouve d'un seul coup, des policiers qui sont autour d'un de la table, en train de manger tout un festin. Hein?
Oh, oui.
Et quand vous les avez vus, vous étiez quoi, là?
Ben, j'avais terminé un moulin à coude. Puis, j'ai regardé, puis j'ai pas regardé le rock,
Monsieur Réal Baudouin, vous pensez parce que vous les avez découverts en train de manger dans un lieu qui est spécialisé, qui est spécialisé pour les gens diminués, c'est à cause de ça vous pensez qu'ils sont en train de vous poursuivre et de vous intimider?
Oui, parce que...
C'est difficile à nous dire ça.
Parce que Monsieur Desjardins, puis la directrice, sont rendus directeur général de la police.
Alors, je répète, M. Barnabé, vous pilotez un petit peu le dossier de M. Réal Baudouin.
Oui.
Alors, comment... parce que
Qu'est-ce qui est arrivé, là, mais monsieur, il y a eu le malheur de, justement, sa voisine qui reste à côté de lui. M. Baudouin était dans sa cour, puis la voisine, elle a pas confronté, mais elle a pointé M. Baudouin comme quoi que c'est lui qui coupait les branches. Et puis là, M. Baudouin a dit, écoutez, mêlez-vous de vos affaires.
Ouais. C'est un conflit entre voisins. Et,
oui, mais là, c'est là que M. Desjardins est arrivé avec la madame.
C'est M. Desjardins, monsieur?
M. Desjardins, c'était celui, justement, qui travaille, justement, au garde-manger. Okay. Et puis, elle a fait prix.
Ah, là, c'est là où M. Réal Baudouin était allé. Il a découvert les policiers en train de manger.
Oui, c'est vrai. Oui. Par après. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur et la madame ont sauté sur lui et puis qui ont serré les côtes, puis il a mal dans les épaules. Tout ça. Et puis après ça, ben là, les policiers, vu que justement que M. Baudouin, il les a pris par surprise, ces choses-là, ben ils ont commencé justement à faire de la discrimination pour ces choses-là.
Ah, c'est ça. Donc vous pensez, parce qu'il les a découverts comme ça, il y a discrimination. Oui. Ça, c'est selon vous, là, c'est pas là.
Selon les agissements tout de suite par après, c'est ça qui va. Puis après ça.
Harcèlement, ben. M'envoie sur la rue, ben.
Il vous arrête.
Et même
M. Barnabé, c'est arrivé une fois qu'il a appelé une ambulance. Oui. Et vous m'avez dit la dernière fois qu'il avait appelé une ambulance.
Oui, il avait
parce qu'il y avait une chute de...
Oui, il y a eu une chute de 5, une huitième de à peu près 8 marches. Et puis quand il est tombé en bas, et puis là, les policiers sont venus, puis les ambulanciers. Là, ce monsieur-là, ils l'ont ramassé. Et puis à 8h, disons à 17h et 23-24, il était rendu à l'hôpital. Oui. Puis eux autres, ben, ils ont fait un papier comme quoi, un mandat comme quoi que le monsieur, il avait sacré après un cycliste.
Injurié,
puis il y avait un automobile, puis le policier, puis il y avait 4-5 personnes. Et puis ce monsieur-là, il était même pas là, il était à l'hôpital. Il était sous les soins de justement des ambulanciers, puis ces choses-là. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est l'abus de pouvoir des autres. Et puis aussi, ben. Ils font juste harceler. Là, c'est le monsieur, là, il est rendu, là, qui est plus capable de prendre son bicycle. Il est obligé de se déplacer en taxi pour pas que les policiers l'arrêtent.
Même à un moment donné, il veut déménager complètement de la.
Oui, justement, on a gardé pour des logements. On n'a pas trouvé de logement. Et puis, ce pauvre monsieur-là, bien, il est dépourvu. Mm-hmm. Puis, on dirait que depuis son accident, on dirait qu'il est rejeté par la société. Ouais. Même par la police, parce qu'il devrait savoir, ce monsieur-là, comme qu'il est aujourd'hui, que c'est un gros accident qui est arrivé. Il a un mâchoire, il est semi-paralysé de son parler.
Et il est diminué aussi, hein? Il n'a pas les moyens.
Il a 45. Combien que vous avez de diminué?
45
d'incapacité.
Capacité.
D'invalidité.
Mais c'est pas ça aujourd'hui.
Alors, M. Réal Baudouin, pour le minute qui nous reste, qu'est-ce que vous allez vouloir livrer aux gens qui vous écoutent aujourd'hui?
Il veut livrer que la pourriture a fait jouer. La pourriture. Pourquoi qu'il marchait la même?
Oui, oui.
Pourquoi?
Oui.
Parce que il les a découverts. Puis là, c'est Desjardins puis la directrice. Quand les autres, ils parlent aux polices, là,
Directement,
ils disent même pas pourquoi ils m'arrêtent.
Oui, M. Réal Baudouin, vous parlez justement aujourd'hui de...
C'est parce qu'ils ne prennent pas sa déposition, puis eux autres, quand ils appellent, ils appellent directement des individus.
Oui, ils ne prennent pas ma déposition. Jamais qu'ils ont pris ma déposition.
Ouais. Et pour vous, c'est une humiliation, ils voulaient complètement changer de place.
C'est une humiliation, humilié, à mort. C'est comme la vie...
C'est fini.
la vie n'est pas finie, mais...
Monsieur Barnabé, est-ce que vous avez envoyé des mises en demeure à ces policiers-là?
Mais là, on a, justement, là, on est venu à bout d'avoir un avocat, on a été voir les juridiques. Moi, qu'est-ce que j'ai pas pu comprendre? Le monsieur, il a un handicap de 45%. Ouais. Il donne un petit montant de rien. Même, il a perdu 2 ans de salaire, puis ils ont juste donné 1 196 piastres pour 2 ans de salaire perdu.
Ouais,
mais ça, je trouve ça ingrat.
Oui, mais aujourd'hui, il a l'aide sociale, j'imagine. Oui.
Non. Non, ma pension...
J'ai
71 ans.
Ouais.
Puis ils n'ont aucun respect pour moi, mon vieux maudit.
Oui.
Mon vieux et...
OK. Mais monsieur, mais tout ce que vous demandez finalement, vous demandez quoi? La considération, justice. Le respect?
La justice, je pense qu'il n'a pas.
Mais c'est pas juste ça. Vous demandez que... Vous demandez le respect, c'est ça finalement. Vous devrez être respecté pour le moins.
Je veux qu'il nage tranquille.
Il laisse libre, qu'il peut s'aller où qu'il veut. Là, il ne peut pas y aller, il est limité.
Ouais.
La ministre qui s'en va n'importe où, il l'arrête. Il a un téléphone, je ne sais pas d'où il vient, c'est le mot du téléphone.
Mais ça ne sera pas, M. Barnabé, ça ne sera pas beaucoup mieux, peut-être qu'il déménage tout simplement.
Non, excusez-moi, la raison, pourquoi? Parce que le juge a bien dit, j'ai son dossier, puis c'est moi qui veux le piloter son dossier. Parce qu'il a dit une chose de trop, le juge, il a dit, il faut que les citoyens s'aient protégés. Par cet homme-là.
Pourquoi? Parce qu'il est violent, monsieur?
Non, il n'est pas violent.
Je suis violent pour des mouches et des maringouins. à part de ça, il n'y a aucune violence.
Merci, M. Réal Baudouin. Donc, voilà, chers auditrices, chers auditeurs, on vient au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé ce matin. Merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. Alors, sur ça, je vous dis passez une excellente fin de semaine et à la prochaine. Au revoir.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros. Et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante.
Un foyer de découverte musicale et multiculturelle. Une formidable scène d'expérimentation pour les créatrices et les créateurs. Nous collaborons avec de nombreux organismes, des festivals et des manifestations publiques pour faire connaître les réalisations et les créations des Montréalaises et des Montréalais.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
Un monde différent.
contribuer au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville,
102,3 FM, un monde différent.
Ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à écouter mon émission qui intitule Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h. Je vais parler de plantes, de fleurs, de plantes tropicales, exotiques, etc. Et bien entendu, avec un petit concours pour gagner des billets offerts par le Jardin botanique de Montréal. Donc je vous y attends tous les mardis de 13h à 14h.
Radio Centreville, 102,3 FM.